Les Années-Lumière, édition du 21 mars 2010. Chez les jeunes, la consommation de cannabis peut-elle déclencher la schizophrénie ? Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, cette édition, elle commence avec vous, Chantal Srivastava, et avec les espèces menacées.
Thon rouge, éléphant, tigre, bois de rose, ours polaire, et j'en passe, toutes ces espèces sont au cœur d'une rencontre sur le commerce international à Doha, au Qatar.
Gaëlle Lucia Berdou, vous enchaînerez avec cette question des liens entre cannabis et schizophrénie.
Une nouvelle étude vient appuyer la thèse qui veut que le pot puisse vous rendre crackpot.
On ira ensuite au courrier des années-lumière avec une question sur les coquillages. Comme il se doit, c'est un malacologue qui y répondra. Puis à la chronique cette semaine, Hervé Fischer réfléchit sur les relations entre progrès technologique et progrès éthique. Deuxième heure, Sophie-André Blondin, vous nous emmènerez à Québec, au Musée de la civilisation, pour une exposition, disons, songée.
Oui, la pensée, c'est une exclusivité des humains et on en explore la source, le siège et la suite dans l'exposition Copyright humain.
Après le petit journal de la science, je vous parle de génétique, disons, extrême. Quand on se pose une question sur les gènes d'un patient, pourquoi ne pas séquencer son génome en entier et aussi celui de ses proches? Et pour terminer l'émission, Sophie André, vous allez recevoir l'auteur de la semaine.
Carlo Rovelli signe Anaximandre de Millet ou la naissance de la pensée scientifique, c'est aux éditions Dunod.
Mais tout de suite donc, les espèces menacées et leur protection. Alors, le prix du thon rouge, qui est très prisé par les amateurs de sushi et de sashimi, atteint des valeurs records, un point tel que l'appât du gain fait craindre le pire pour la survie de l'espèce. Pour vous donner une petite idée de ce que vaut un thon rouge de l'Atlantique de 150 kilos, donc, eh bien, on en a vendu un comme ça aux enchères au Japon en janvier dernier pour la coquette somme de 175 000 $. Un thon rouge. Alors les Japonais ont dû pousser Chantal Srivastava un très gros soupir de soulagement en apprenant cette semaine que le commerce du thon rouge de l'Atlantique ne sera pas interdit.
En effet, Yannick, parce que le Japon consomme bon an, mal an, environ 80% des thons rouges pêchés dans l'Atlantique, donc des thons rouges de l'Atlantique, les bluefin, comme on les appelle en anglais. Reste à voir maintenant durant combien de temps ils pourront continuer à se délecter de ce poisson, parce que nombreux sont ceux qui s'inquiètent pour sa survie à cause de la surpêche. La question figurait d'ailleurs en bonne place à l'agenda de la réunion triennale de la CITES qui se tient à Doha, au Qatar, pour encore quelques jours. CITES, c'est l'abréviation pour Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Il s'agit en fait d'un traité international en vigueur dans 175 pays qui a été adopté en 1973 parce qu'on voulait éviter la surexploitation commerciale des animaux et des plantes menacées. Et à ce jour, quelques 5000 espèces animales et 28000 espèces végétales sont protégées par la CITES. Et ce qui se passe, Yannick, ces jours-ci à Doha, c'est que 1500 participants se penchent sur une quarantaine de propositions, dont celle de la principauté de Monaco qui visait à interdire le commerce du thon rouge de l'Atlantique proposition qui a été largement défaite en comité jeudi dernier.
Et il faut rappeler que la CITES offre trois degrés, trois niveaux de protection. Hein,
premièrement,
c'est ça?
Le plus important, c'est l'annexe 1 qui inclut près de 600 espèces animales, dont tous les grands singes, tigres, tortues de mer, crocodiles et les éléphants, de même que 300 espèces végétales. Et pour toutes ces espèces, Yannick, le commerce international est interdit, sauf exception, comme pour la recherche scientifique. C'est d'ailleurs dans cette catégorie qu'on voulait ajouter le thon rouge de l'Atlantique. Puis, il y a l'annexe 2 qui regroupe la majorité des espèces régies par la CITES, des espèces qui sont menacées, mais pour lesquelles le commerce est permis, sauf qu'il est étroitement surveillé. Et finalement, il y a l'annexe 3 qui concerne des espèces protégées dans un pays qui demande l'aide de la communauté internationale pour contrôler le commerce à l'extérieur de ses frontières. Cela étant dit, l'inscription dans l'une ou l'autre des annexes n'est pas éternelle. Il faut dire qu'il y a là des enjeux commerciaux important. Et d'ailleurs, tous les trois ans, il y a un bal diplomatique comme celui qui culmine maintenant à Doha qui se met en place afin de négocier des assouplissements ou des resserrements selon les espèces et bien sûr les lobbies.
Et la question, c'est de savoir si la science s'est vraiment fait entendre dans l'histoire du thon rouge.
Et pour le savoir, je me suis adressée, Yannick, à un expert international en la matière. Il s'appelle Jean-Jacques Maguire. Il a travaillé à Pêche et Océan Canada avant de devenir consultant au milieu des années 90. Et depuis, il a entre autres signé un important rapport abondamment cité sur le thon rouge de l'Atlantique qui a été publié en 2008. Alors, pour vous situer, ce rapport visait à évaluer les performances d'une entité qu'on appelle l'ICCAT, I-C-C-A-T. Ça, c'est le nom qu'on utilise dans le jargon pour parler de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, qui est une organisation en charge de la gestion et de la conservation des stocks de thon dans l'Atlantique. Alors, en 2008, les trois experts, dont Jean-Jacques Maguire faisait partie, ont jugé très sévèrement la gestion du thon rouge par l'ICCAT. On parlait même à l'époque de honte internationale. Et donc, dans ce contexte, je lui ai demandé si on aurait dû cette semaine inclure le thon rouge de l'Atlantique à l'annexe 1 de la CITES pour interdire carrément le commerce international. Je lui ai posé la question, je l'ai joint à Québec et je vous rappelle donc que quand il parle de l'ICCAT, parce qu'il utilise ce mot abondamment, il fait référence à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. On l'écoute.
L'inclusion du thon rouge de l'Atlantique à l'annexe 1 de la CITES n'aurait pas empêché le commerce à l'intérieur de l'Union européenne, qui est un des principaux pêcheurs. Aussi, on peut dire que l'ICCAT, depuis les dernières années, là, vous avez mentionné le rapport où on mentionnait que la gestion des pêches au thon rouge en Méditerranée était considérée comme une honte au niveau international. La gestion des pêches s'est améliorée en Méditerranée, surtout pour les pays de l'Union européenne. Il semble y avoir une augmentation de la surveillance, une augmentation du contrôle. Et puis, faut dire que il y a des restrictions de la pêche assez sévères au Canada et aux États-Unis pour l'Atlantique de l'Ouest là, depuis le début des années 80. Et puis ça a été assez bien observé. Là. De notre côté de l'Atlantique, nous, les captures sont assez bien contrôlées. Là où il y avait un problème, c'était en Méditerranée, où l'introduction des cages d'engraissement à la fin des années 90 a permis une rentabilité assez extraordinaire des saineurs. De gros saineurs
qui sont ces bateaux avec des filets qui ramassent tout, là.
C'est ça. Mais cette rentabilité accrue a permis de pêcher, d'augmenter l'effort de pêche, puis d'aller dans des zones où les saineurs pêchaient pas autrefois, dans des zones non traditionnelles. Donc, ces zones, autrefois, étaient des refuges, un peu, pour le thon rouge. Puis avec le début des cages d'engraissement, là, il n'y avait plus de refuges. Ça pêchait partout en Méditerranée. Donc, c'est ce qui explique un peu le déclin. Mais là, si les pays sont sérieux et puis qui suivent les conseils des scientifiques de l'ICCAT, il y a bon espoir que le thon de ce côté-là de l'Atlantique va récupérer.
Sauf que, M. Maguire, vous le savez encore mieux que moi, c'est pas la première fois que les scientifiques de l'ICCAT sonnent l'alarme et on a tardé à agir. Qu'est-ce qui pourrait nous laisser croire que cette fois-ci, les pays membres vont vraiment prendre les mesures nécessaires et les mettre en œuvre?
Bien, on a l'impression là, qu'ils commencent à les mettre en œuvre depuis 2007. Là, 2007 a été la dernière année où ça a été un peu la pêche pas mal libre, là. Mais il semble y avoir eu des augmentations de surveillance, des surveillances aériennes. Il y a des bateaux qui sont arraisonnés aussi. Il y a des programmes, le rachat de permis de bateau et puis de mise à quai, là. Les bateaux en anglais, decommission, ils sont plus, on leur enlève leur permis.
L'état actuel des stocks, M. Mégoire, on dit parfois qu'on est à 15 % de la quantité de thon rouge qu'il y avait dans ces zones, donc de l'Atlantique Nord et de la Méditerranée, avant qu'on commence la pêche commerciale intensive. Est-ce que ces données-là font consensus?
Non. L'évaluation du thon, surtout du côté est-atlantique et de la Méditerranée, l'évaluation n'est pas très fiable. On n'a pas beaucoup de données. On n'a pas beaucoup de données de l'indice de la taille du stock, mais aussi on n'a pas beaucoup de données sur la composition démographique des captures commerciales. Il y a beaucoup de pays qui ne fournissent pas leur échantillon.
On veut connaître la taille du poisson.
On veut connaître la taille du poisson, l'âge du poisson, et puis c'est comme ça que les modèles fonctionnent un peu. Et puis, ce qui a causé, je crois, bon, les modèles indiquent une diminution de la biomasse reproductrice, mais je crois que ce qui a causé le plus d'alarme, c'est l'augmentation de l'effort de pêche dont on parlait tout à l'heure et l'exploitation de zones qui autrefois étaient inexploitées. Donc, on parle, dans les années 80, les captures est-atlantique plus Méditerranée, c'était autour de 10 000 tonnes. Et puis, depuis 97, là, ça, au milieu des années 90, ça a atteint 50 000, 60 000 tonnes en exploitant des nouvelles zones et surtout des grands thons aussi, les grands thons reproducteurs. Donc, je crois que c'est ça qui a causé plus d'alarme chez les scientifiques de l'ICAT que les résultats de l'évaluation formelle, l'évaluation par des modèles mathématiques.
Est-ce que tout cela, toutes ces mesures-là vont permettre éventuellement d'éviter un effondrement des stocks, voire de rétablir les stocks? Et est-ce qu'on a une idée du calendrier selon lequel ça pourrait se faire si tout va tel que prévu?
Si les mesures sont effectivement prises puis effectivement appliquées, il semble qu'il y ait un bon espoir que ça pourrait en fait être assez rapide. Il y a eu, des collègues français ont fait un relevé aérien des bancs de thon rouge en Méditerranée à l'été 2009. Et puis, il y en avait fait aussi au début des années 2000, mais de 2005 à 2008, il n'y en avait pas eu. Et puis, ce qu'ils ont observé en 2009, là, c'était une abondance de jeunes thons beaucoup plus élevée que ce qu'ils avaient observé durant les débuts des années 2000. Donc, il y a peut-être des recrues qui sont en route là, et puis qui vont permettre de rétablir la situation assez rapidement si on trouve le moyen de protéger ces recrues et puis qui ne sont pas capturées avant d'avoir la chance de se reproduire.
Mais il faut que les parties qui sont membres de l'ICAT, donc les pays membres, se conforment à ce qu'on leur demande de faire. Et ça, on n'a pas de moyens de s'en assurer.
L'ICAT a été un peu faible là-dessus. Là. L'ICAT prend des mesures de punition contre les pays qui ne sont pas membres. Mais contre les pays membres, là, c'est assez rare. Ça semble manquer un peu de moyens de pression. Mais il y a la pression des pairs là, qui joue et puis qui incite les pays membres à soumettre plus de données. Déjà, on voit qu'en 2009, à la dernière réunion du comité scientifique, là, il y a beaucoup plus d'informations qui a été présentées.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Mégoire, pour toutes ces informations. Merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir.
Le biologiste Jean-Jacques Mégoire, donc un expert de renommée internationale en halieutique, qui a fait en 2008 une évaluation indépendante du travail qui a été fait au fil des ans par l'ICAT, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Ça, c'est une organisation intergouvernementale qui est chargée de la gestion des stocks de thon dans l'Atlantique. Et M. Mégoire, finalement, Chantal, a l'air assez confiant quand même.
Dans la mesure où on se conforme vraiment à ce qui a été décidé, qu'il y a un quota de pêche annuel d'autour de 13 500 tonnes pour le thon rouge de l'Atlantique.
Alors, il y avait un autre animal qui était sur la scène, sur le devant de la scène à Doha. C'est l'éléphant, un animal, bien sûr, qui est prisé, non pas pour sa chair, mais pour son ivoire.
Oui, un poids lourd des espèces menacées, donc le commerce de l'ivoire qui est interdit, il faut le dire, Yannick, par la CITES depuis 1989, donc ça ne date pas d'hier. Mais il y a eu des exceptions au fil des années, en 1999, en 2008, alors que la vente de stocks d'ivoire saisis par les autorités a été autorisée dans certains pays d'Afrique. Et c'est un enjeu qui refait régulièrement surface à la CITES, comme c'est le cas cette année. À cet égard, ce qu'il faut savoir, Yannick, c'est que la situation de l'éléphant sur le continent africain n'est pas
uniforme et universel. Par exemple, dans certaines zones de l'Afrique centrale, comme la République démocratique du Congo, l'éléphant est menacé par le braconnage à un point tel qu'il n'en resterait aujourd'hui que 20 000 par rapport aux 100 000 il y a 50 ans. Or, durant ce temps-là, ailleurs plus au sud, les éléphants, eux, sont tellement nombreux qu'ils menacent la sécurité des habitants et qu'il faut les abattre.
Comme dirait l'autre, c'est pas simple.
C'est pas simple. Et une fois de plus cette année, cette question refait surface à la CITES, alors que des pays comme la Tanzanie et la Zambie veulent eux aussi la permission de vendre leur ivoire afin, disent-ils, de financer les programmes de protection de l'éléphant sur leur territoire. Une situation qui a amené 27 biologistes impliqués dans la conservation des éléphants en Afrique à prendre position dans la revue Science. Je vous propose d'écouter un des signataires de cet article. Il s'appelle René Beyers. Il est chercheur postdoctoral au département de zoologie de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. C'est un habitué de l'Afrique centrale.
Donner de l'autorisation à ces ventes peuvent provoquer un abattage illégal des éléphants ailleurs. Ça peut aussi faciliter donc le trafic illégal. Et c'est pour ça qu'on est contre cette proposition.
On a déjà autorisé par le passé sur une base spéciale des ventes vraiment très ponctuelles de stocks d'ivoire en 1999 et en 2008. Est-ce qu'on a la moindre idée de ce que ces ventes-là ont signifié en termes d'impact sur le braconnage?
C'est une question qui est très difficile à répondre parce que c'est très compliqué en fait. On ne voit pas souvent tout de suite, disons, une augmentation du braconnage. Et ça peut être parce qu'il n'y a pas les données, les données ne sont pas disponibles, ou il y a peut-être un décalage entre la décision de vendre les ivoires et une augmentation de braconnage, parce que les braconniers doivent s'organiser aussi. Donc ces liens sont un peu difficiles de prouver. Mais dernièrement, donc avec donc les ventes autorisées en 2008, on a vu une augmentation importante de braconnage. Donc c'est possible que c'est lié.
René Beyers est chercheur postdoctoral au département de zoologie de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Chantal Srivastava, merci beaucoup.
Je vous en prie, Yannick.
Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer Les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
I've been very fortunate to live a drug-free life, and I don't meet many people who've led a drug-free life who regret it. I met a lot of people who haven't who've regretted it. So this is something that we want to encourage, obviously, for our children, for everybody's children.
Alors, vous avez sans doute reconnu le Premier ministre du Canada, Stephen Harper, qui se félicitait cette semaine sur YouTube de ne pas avoir consommé de drogue et qui souhaitait la même chose à ses enfants et en fait à tous les enfants. Il répondait, M. Harper, à une question posée par des internautes au sujet de la légalisation de la marijuana. Et c'est sans grande surprise Gaëlle Lucia-Berdoux qui l'a rejeté l'idée.
Oui, Yannick, les conservateurs n'ont jamais caché qu'ils n'étaient pas très favorables à l'idée de légaliser des drogues, même une drogue dite douce comme le cannabis. M. Harper a invoqué des raisons de sécurité publique, entre autres dans sa présentation sur YouTube. Il a parlé de trafic, de crime organisé, mais il aurait pu aussi invoquer des raisons de santé publique. Par exemple, de santé mentale. Entre autres parce que ça commence à faire longtemps que les chercheurs étudient les liens entre la consommation de cannabis et la schizophrénie. La schizophrénie qui est une maladie qui provoque notamment des délires, une sorte de détachement de la réalité, aussi parfois des problèmes cognitifs. Et ce lien entre marijuana ou marijuana et schizophrénie a été montré une fois de plus très récemment dans une étude publiée par des chercheurs australiens dans la revue Archives of General Psychiatry. Ils ont suivi près de 4000 jeunes d'une vingtaine d'années, donc à l'âge où généralement apparaît le plus souvent la schizophrénie. Et ils ont constaté que plus leur consommation de cannabis remontait à loin, c'est-à-dire plus ils avaient commencé à fumer des joints jeunes, plus ils étaient susceptibles d'être atteints de troubles comme la schizophrénie.
Et bien, vous venez de dire, Gaëlle, encore une fois, ça veut dire que c'est pas tout nouveau, cette histoire-là.
Hein? Ce lien, ouais. Non, ce n'est pas la première étude qu'il fait, ce rapprochement entre cannabis et schizophrénie. D'autres avaient même avancé l'idée d'un lien de cause à effet entre les deux. Mais il y a aussi eu plusieurs travaux qui ont conclu le contraire. Alors, pour faire un peu le bilan de tout ça, j'ai discuté avec Stéphane Potvin, chercheur adjoint en psychiatrie à l'Université de Montréal et affilié au Centre de recherche Fernand Seguin de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal.
D'affirmer aujourd'hui que le cannabis est un facteur de risque dans le développement de la schizophrénie, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est très controversé. Ce qui demeure plus l'objet d'un débat, c'est de voir à quel point c'est un facteur de risque. Mon impression personnelle, quand je regarde la littérature, c'est que oui, le cannabis est un facteur de risque, mais ce n'est pas un facteur qui est très fort. C'est un facteur qui est plutôt faible, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la population générale qui fument du cannabis, qui font en sorte qu'un facteur qui est faible, si on l'additionne chez des millions de personnes, en bout de ligne, ça porte des conséquences sociales importantes. Donc ça, c'est un premier enjeu où c'est peut-être plus ou moins clair. Puis aussi toute la question de savoir si l'implication du cannabis joue vraiment un rôle causal comme tel dans le développement de la schizophrénie et des symptômes psychotiques. Ça aussi, ça demeure peut-être un peu plus controversé. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans une position où on peut affirmer avec une certaine confiance que le cannabis constitue un certain facteur de risque dans le développement de la schizophrénie.
Alors, c'est quoi les arguments solides dans ce sens-là?
Bien, c'est que les premières études qui ont été publiées sur la question, c'était des études où les différents facteurs qui peuvent influencer la relation entre la consommation de cannabis et le développement de la schizophrénie, ces facteurs-là n'étaient pas bien contrôlés dans les premières études qui sont apparues. En fait, je pense en particulier dans l'étude de pionnière d'Andreessen en 87, une étude majeure, soit dit en passant, mais comme toute étude qui est une nouveauté, c'est une étude qui comportait un certain nombre de limites. Par exemple, la consommation d'autres substances à part le cannabis n'était pas bien contrôlée. Les gens qui consomment des amphétamines, par exemple, peuvent faire des psychoses toxiques. Ben, ce genre d'études où si on regarde l'effet longitudinal du cannabis, ça peut être bien de mesurer les autres substances. Les diagnostics aussi étaient posés selon une évaluation rétrospective des dossiers médicaux, ce qui n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. La vulnérabilité psychotique préalable n'avait pas été mesurée dans ces études-là. Mais par la suite, évidemment, les gens dans le domaine sont bien conscients de ces limites-là. Donc, il y a eu tout un ensemble d'études qui ont été faites en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Suède, en Hollande aussi. Et dans ces études-là, la plupart des groupes ont contrôlé ces facteurs-là qui sont potentiellement confondants. Puis même en contrôlant ces facteurs-là, on s'aperçoit que la relation entre cannabis et schizophrénie est peut-être moins forte que ce que les premières études suggéraient, mais il y a un lien qui demeure encore là, malgré tout.
Donc, si le lien existe, quelle est son importance, justement, de ce facteur-là, de la consommation de cannabis par rapport peut-être à d'autres facteurs qui peuvent causer la schizophrénie?
Bien, j'ai l'impression que si on regarde le cannabis en tant que tel, il n'y a pas de raison de penser qu'une personne qui n'a aucune fragilité psychiatrique, qui consomme un joint une fois dans sa vie, que cette personne-là, pouf, tout d'un coup, comme par magie, va développer la schizophrénie. Je pense qu'actuellement, on en est plus. La question, c'est plus de savoir c'est quoi les ingrédients qui peuvent venir se combiner avec la consommation de cannabis pour faire en sorte que quelqu'un va développer la schizophrénie. Je ne pense pas que c'est n'importe qui fume un joint qui va développer la schizophrénie. Donc, les facteurs qui sont possibles, bien, il y a certainement des facteurs génétiques. Il y a certainement certains neurotransmetteurs comme la dopamine, par exemple. Il peut y avoir aussi des facteurs reliés, comme je disais, à la consommation d'autres substances. Il peut y avoir aussi le début de l'âge, la consommation du cannabis. On n'a pas présentement de raison de penser que le cannabis serait une substance puissamment neurotoxique. Par contre, il y a toutes sortes de données qui nous suggèrent que c'est peut-être une substance qui pourrait jouer un rôle important lors du développement du cerveau. Donc, si quelqu'un commence à développer une dépendance plus jeune versus quelqu'un qui développe une dépendance plus tard, peut-être aussi ça peut être un facteur. Il y a certainement aussi la question de la fragilité psychotique au point de départ qui peut être aussi un autre ingrédient. Certains traits de personnalité, les gens qui ont de l'anhédonie, qui ont des difficultés à éprouver du plaisir, les gens qui sont désorganisés, les gens qui ont déjà au point de départ des pensées un peu magiques. Il y a toutes sortes de traits de personnalité qui peuvent se combiner avec la consommation de cannabis et faire en sorte qu'une personne va être plus à risque à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, le cannabis risque peut-être de faire un effet. Dernière chose que je rajouterais, juste pour boucler cette boucle-là, Je pense pas que la littérature suggère que les gens qui vont développer la schizophrénie en fumant le cannabis, si on retirait le cannabis, je pense pas qu'on verrait des gens qui fonctionneraient parfaitement bien. Il y aurait certainement des fragilités qu'on pourrait voir. Je pense que c'est plus ça qui ressort présentement. C'est peut-être plus ça les avenirs de recherche pour le futur, de voir le cannabis, il se combine avec quoi pour éventuellement produire la schizophrénie plutôt que d'avoir un discours qui est centré strictement sur la substance.
Le chercheur Stéphane Potvin. Gaël, donc, M. Potvin est quand même prudent. Le cannabis serait un facteur dans le déclenchement de la schizophrénie, mais il y en a probablement d'autres, des facteurs qui sont peut-être plus importants.
Peut-être, il en a évoqué quelques-uns, notamment l'âge au début de la consommation de cannabis et le développement du cerveau. Stéphane Potvin s'intéresse en particulier à un système qu'on appelle le système cannabinoïde endogène, qui fait qu'on a tous, comme il dit lui-même, un peu de pote dans le cerveau. Hein. Ce système, c'est en fait un ensemble de neurotransmetteurs et de récepteurs qui fait qu'on est réactif au cannabis, notamment au THC, cette substance qu'il contient. En fait, dans notre cerveau, il y a un neurotransmetteur qui agit un peu comme le THC, et ça s'appelle l'anandamide, retenez ça. Les scientifiques se sont rendus compte que ce système-là, cannabinoïde endogène, fonctionne différemment, justement, chez les schizophrènes. Les taux d'anandamide, entre autres, sont plus élevés chez ces gens-là. Alors, quels effets ont ces différences? Est-ce que c'est pour ça que les consommateurs de marijuana peuvent développer une schizophrénie? Ou à l'inverse, est-ce que les schizophrènes ont, à cause de cette anomalie, un intérêt particulier pour le cannabis, une espèce de sensibilité exacerbée? Bref, est-ce que c'est la consommation qui mène à la schizophrénie ou si c'est la schizophrénie qui mène à la consommation? On écoute là-dessus encore Stéphane Potvin.
Moi, je dirais que présentement, il y a quand même des évidences qui vont dans les deux sens. Si on veut essayer de faire la part des choses, il y a les données, donc sur toutes les études longitudinales montrant que le cannabis semble être un facteur de risque dans le développement de la schizophrénie, mais il y a aussi des données épidémiologiques très robustes qui montrent que les gens qui ont la schizophrénie ont plus tendance à accrocher lorsqu'ils font des essais. Ils peuvent accrocher plus facilement pour des plus petites quantités. Une fois qu'ils accrochent, c'est plus difficile de décrocher. Donc, il y a quelque chose dans la schizophrénie qui fait en sorte qu'ils sont plus fragiles, plus sensibles, ils ont plus tendance à développer une toxicomanie, puis quand ils en développent une, c'est plus difficile de s'en défaire. Et c'est là que nous, on s'est posé comme question, si on prend pour acquis qu'il y a des perturbations du système cannabinoïde dans le cerveau des gens de la schizophrénie, on pourrait se demander est-ce que ça, c'est pas un des facteurs qui fait en sorte qu'ils ont soit plus de facilité à accrocher aux substances ou au contraire plus de difficulté à décrocher. On a donc fait une étude qui est, j'insiste, c'est le genre d'étude vraiment préliminaire, mais par contre qui, à mon sens, ça rouvre tout un questionnement qui est pas encore ouvert. Ce qu'on s'est demandé, c'est qu'on a donc pris une mesure dans le sang chez les gens qui ont la schizophrénie de l'anandamide, donc notre fameux équivalent du THC dans le cerveau. On a mesuré ça chez les gens qui ont une schizophrénie plus un problème de consommation, puis on a comparé à la population générale. Puis on les a suivis dans le temps, puis on avait des mesures de leur consommation dans le temps. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est d'une part, les gens qui ont la schizophrénie avaient des taux d'anandamide plus élevés par rapport à des sujets sains. Ça, jusqu'ici, on ne réinvente rien, d'autres gens l'avaient démontré. Mais là où nous, on apporte quelque chose, c'est qu'on a regardé après cette élévation-là, est-ce qu'elle est reliée à l'évolution de leur toxicomanie dans le temps? Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une relation entre les deux. C'est-à-dire que ceux qui ont des taux d'anandamide qui sont élevés, c'était ceux qui, en fin de traitement, avaient encore des scores de toxicomanie élevés. Ils consommaient encore pas mal. Tandis que ceux qui avaient des taux bas, c'était ceux qui parvenaient plus facilement, parce qu'il y avait certains incitatifs, là, ils parvenaient plus facilement à diminuer leur consommation. Donc, j'ai l'impression que ça rouvre une avenue de recherche, ce genre de résultat-là, même si c'est préliminaire, à savoir ceux qui ont la schizophrénie, pourquoi ils accrochent plus facilement, puis pourquoi ils décrochent plus difficilement. On sait qu'il y a un paquet de facteurs qui peuvent jouer un rôle là-dedans, mais nous, on est en train de se demander est-ce qu'il n'y aurait pas, en partie du moins, des facteurs neurobiologiques qui pourraient expliquer cette relation-là.
C'était Stéphane Potvin, qui est chercheur en psychiatrie au Centre Fernand Seguin à Montréal. Alors, Gaël, pour en revenir à l'aspect déclencheur donc, que pourrait avoir le cannabis sur la schizophrénie, bon, on sait que le pot d'aujourd'hui est nettement plus fort, plus puissant que celui qu'on fumait il y a une trentaine d'années, en excluant la personne qui parle, évidemment. Donc, est-ce que les cas de schizophrénie ne devraient pas être plus nombreux aujourd'hui, puisque le pot est plus fort?
Oui, c'est un des arguments de ceux qui ne sont pas encore convaincus par les démonstrations qui ont été faites de ce lien entre drogue et maladie mentale, parce qu'effectivement, me disait Stéphane Potvin, on n'a pas de preuves solides dans ce sens-là encore. Mais il y a peut-être d'autres facteurs en jeu. Par exemple, on connaît bien le THC comme substance, en tout cas, on connaît de mieux en mieux, et on sait que sa concentration dans le cannabis a augmenté dans le temps, mais on connaît moins bien les autres composés de cette fameuse plante, et ils sont assez nombreux. Le cannabidiol, par exemple, auquel on attribue au contraire, des propriétés antipsychotiques. Bref, il y a encore beaucoup de questions. La science est loin d'avoir fait le tour de tout ça.
Gaëlle, Lucia Berdoux, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, la pensée, une exclusivité des humains. Une visite à l'exposition Copyright Humain du Musée de la civilisation de Québec.
On a aussi deux objets majeurs dans l'exposition, un crâne de Cro-Magnon et le crâne de Descartes.
Alors, le vrai crâne, Descartes.
Le vrai Descartes. Enfin, le muséum nous dit que c'est le vrai.
C'est dans ce crâne-là qu'est née la phrase
« Je pense donc je suis ».
Un crâne, effectivement, qu'on peut voir donc à Québec. Et c'est l'heure du courrier des auditeurs.
Oui, bonjour. Ma question est, les coquillages, comment se fait-il qu'il y en a des immenses et qu'il y en a des tout petits qui ont la même forme que ces immenses? Donc, ma question est, avec ma petite fille de 6 ans qui me l'a posée, est-ce qu'ils naissent petits et grossissent ou ils naissent gros et ils restent gros? Merci.
Bonne question. Alors, pour répondre à cette bonne question donc, sur la croissance des coquillages, Gaëlle Lucia Berdoux a joint Philippe Bouchet, qui est malacologue, c'est-à-dire spécialiste des mollusques en général et des coquillages en particulier, et cela au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
Alors, la réponse à cette question, c'est à la fois un petit peu, je dirais, les deux. C'est-à-dire, bien évidemment, tous les spécimens de grande taille, eh ben, ils ont un jour été petits. Hein, comme tous les arbres ont un jour été une plantule, un arbuste, et puis un jour sont devenus un arbre. De la même façon, eh ben, tous les arbustes ne deviennent pas un jour des arbres. Ben, chez les coquillages, c'est pareil. Il y a des espèces qui, à la naissance, font, allez, on va dire, un quart de millimètre, et qui, à l'état adulte, ben, ne dépasseront pas 2 ou 3 millimètres. Inversement, il y en a qui, à la naissance, font également un quart de millimètre, et puis qui, à 5 ans, vont faire 1 centimètre, et puis qui sont capables de vivre 20 ans, 30 ans, et d'atteindre éventuellement 10 centimètres, 20 centimètres, 30 centimètres.
Et est-ce que quand on est spécialiste des mollusques, des coquillages, on a beaucoup de travail? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, de choses à étudier, de diversité?
Alors aujourd'hui, on estime que dans le monde, on connaît environ 85 000 espèces de mollusques, dont environ 5 000 dans les eaux douces, 25 000 sur Terre et 55 000 à peu près dans les océans. C'est à la fois énorme, énorme beaucoup. Il y a seulement 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde, hein. Et à la fois pas beaucoup. Bon, par comparaison, il y a à peu près 400 000 espèces de coléoptères. Alors oui, on a beaucoup de travail parce que c'est uniquement une partie de ce qui existe. Nous découvrons tous les ans, principalement dans les pays tropicaux, dans les mers tropicales, plusieurs centaines d'espèces inconnues et d'espèces nouvelles de mollusques.
C'est énorme, découvrir plusieurs centaines d'espèces par année. On imagine qu'avec toute cette diversité, il y a beaucoup d'adaptations différentes. Est-ce qu'on retrouve des mollusques, des coquillages dans tous les milieux de la planète?
Alors, j'ai l'habitude de répondre à cette question un peu en disant, oui, tous les milieux, sauf il n'y a pas de mollusques volants. mais autrement, oui, moi, c'est ce qui fait ma fascination et mon intérêt scientifique pour l'étude des mollusques. C'est que, bon, il y a des habitats incroyablement variés. Il y a des espèces qui mangent des éponges, d'autres qui mangent des gorgones, d'autres qui sont des parasites d'oursins ou d'étoiles de mer, d'autres qui parasitent des poissons perroquets quand ils dorment la nuit dans les cavités du récif. Il y a des bivalves qui vivent dans la vase. Il y en a d'autres qui perforent les roches les plus dures. Enfin bon, c'est une source d'émerveillement, de curiosité. C'est extraordinaire d'être malacologiste, c'est le plus beau métier du monde.
Monsieur Bouchet, 2010 a été désignée année internationale de la biodiversité. On parle beaucoup ces temps-ci de crise de la biodiversité, de disparition d'espèces. Est-ce que les mollusques, les coquillages sont aussi touchés par ce phénomène?
Le milieu marin, les océans sont relativement moins touchés que le domaine terrestre. Les grands fronts de la crise de la biodiversité, les écosystèmes et les milieux les plus soumis à la crise de la biodiversité sont d'une part les eaux douces, et puis deuxième grand milieu en crise, les forêts tropicales, et en particulier les forêts tropicales sur les îles. En fait, c'est là que la crise de la biodiversité a jusqu'ici causé le plus d'extinctions.
Y compris pour les mollusques, est-ce qu'on a recensé des disparitions d'espèces déjà?
Y compris pour les mollusques, on en est à, actuellement, on a recensé plus de 500 espèces de mollusques éteints au cours, du deuxième moitié du 19e siècle à aujourd'hui. Donc on est effectivement dans une crise de la biodiversité. On s'en rend plus compte chez les mollusques que chez d'autres groupes d'invertébrés, parce que les mollusques, ils ont une coquille. Donc après la mort de l'escargot, il reste encore une coquille. On peut encore échantillonner cette coquille. Tandis que quand un papillon a disparu, il laisse pas de traces. Donc c'est comme ça qu'on sait que dans pas mal d'îles tropicales, il y avait beaucoup d'escargots endémiques qui ne vivaient dans une seule île. Il ne reste plus d'individus vivants, mais on recueille encore des coquilles vides, des spécimens qui se sont éteints éventuellement il y a 100 ans.
Je vous remercie beaucoup, M. Bouchet, pour ces explications.
Bien, je vous remercie pour votre appel.
Gaëlle Lucia Berdoux interviewait l'homme qui fait le plus beau métier du monde, Philippe Bouchet, qui fait de la malacologie au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et si vous voulez admirer d'ailleurs quelques coquillages, Philippe Bouchet a publié chez Actes Sud un très beau livre sur ces animaux et sur son travail d'explorateur des coquillages. Ça s'appelle « Regards sur les coquillages ». Alors si vous avez, vous aussi, des questions de science à nous poser, vous pouvez le faire par téléphone, c'est ce qu'on préfère, de la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, sans frais, vous faites le 1-800-752-9050. Puis il y a quand même aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer cette première heure avec cette semaine Hervé Fischer. Bonjour Hervé.
Bonjour Yannick.
Vous allez réfléchir aujourd'hui à une question importante, technologie et éthique. On constate, c'est une évidence, que le progrès technologique est extrêmement rapide, de plus en plus rapide même. Par contre, pour dire les choses, disons poliment, le progrès éthique collectif semble beaucoup moins rapide. Est-ce que je me trompe en disant ça?
J'ai peur, Yannick, que vous ayez raison.
Oui.
Parce qu'effectivement, le progrès technologique, depuis qu'on a le numérique, est exponentiel. On peut dire qu'il se développe même beaucoup plus vite que nos idées, que notre conscience, la conscience qu'on en a. La maturité éthique, il faut bien dire collective, parce qu'on ne parle pas de morale individuelle, est quasiment une ligne plate.
Oh, oui, on peut dire que la conscience, dans ce cas-là, ne suit pas la science, ou la technologie, en tout cas. Oui.
C'est bien dit. Edgar Morin disait même qu'il y avait des, non pas des progrès, mais des régrès de la conscience morale. Et éventuellement, il y a de quoi nourrir les prophètes de malheur dans leur réflexion, parce que on pourrait frapper un mur. Maintenant, à mon avis, la technologie fait partie de notre humanisme. Et l'idée que je vais proposer aujourd'hui, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, c'est qu'il ne faut pas diaboliser les technologies. Et les technologies font partie non seulement de notre humanisme, mais de notre conquête humaine. C'est quand même le côté prométhéen de notre aventure humaine. Je crois qu'on pourrait défendre l'idée selon laquelle la technologie favorise le progrès éthique.
Des exemples à l'appui pour défendre cette idée.
Oui, moi, je vais prendre premièrement un exemple très simple, évidemment, la médecine.
Oui.
Par rapport à tous ceux qui sont malchanceux à la naissance, qui ont des handicaps, qui sont malades et qui normalement devraient mourir, être éliminés selon la loi de la jungle.
Qui vieillissent mal aussi.
Qui vieillissent mal, ça, c'est pas encore notre cas.
Oui.
Mais en tout cas,
oui.
C'est sûr que la médecine permet, à l'encontre de la loi de la jungle, la loi du plus fort, permet d'aider ces personnes-là à avoir une vie normale, même des prothèses pour la vue, pour l'audition.
Exactement.
Même un bras. C'est extraordinaire la qualité des prothèses qu'on est capable de faire maintenant. Ça, c'est un premier point. Il me semble qu'on ne peut pas nier qu'au point de vue de la médecine, il y a un apport à notre responsabilité éthique par rapport aux gens qui sont démunis. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est que quand on a des tremblements de terre comme cette année, pensez au tremblement de terre de Lisbonne, celui dont Voltaire disait que ça contredisait l'affirmation de Leibniz que nous vivons dans le meilleur des mondes. Mais à l'époque,
on est au 18e siècle, c'est ça, oui.
C'est pas si longtemps.
Oui.
Et il fallait déjà des semaines pour le savoir. Il fallait des semaines pour envoyer des gens pour aider. Alors qu'aujourd'hui, on sait quasiment en temps réel qu'il y a un tremblement de terre à Haïti ou au Chili ou en Turquie. Dans les 24 heures, on a des avions qui arrivent. On rétablit immédiatement les communications parce que c'est ça qui est vraiment la stratégique. Et on peut intervenir extrêmement rapidement. Et pas seulement ça, c'est que l'Internet permet de créer une conscience de solidarité, des communautés de solidarité morale, humanitaire, pour intervenir rapidement.
Et bon. Qui dit éthique dit réflexion, qui dit réflexion dit écriture, lecture, échange de mots. Et Internet
oui.
A revalorisé la lecture et l'écriture.
Oui, contrairement à ce qu'on dit. On dit que l'Internet tue le livre, tue l'écriture et que bientôt on n'écrira plus. C'est tout le contraire qui existe. En fait, si on observe un tant soit peu, on voit bien que nous écrivons tous les jours et nous lisons beaucoup plus que jamais. On écrivait une lettre à grand-papa une fois par an. Aujourd'hui, on envoie des courriels tous les jours, des dizaines. On en lit des dizaines. On navigue sur Internet. On ne lit peut-être pas des livres, mais on lit des textes sur Internet. L'Internet est un outil d'éducation. Un outil pour des lettrés. Nous sommes les lettrés du numérique. Et ça, c'est basique dans le progrès humain, de la conscience humaine, que l'éducation, la lecture, l'information. Ça me paraît absolument majeur.
Donc, les progrès technologiques entraînent des progrès éthiques, ça vous semble raisonnable de défendre ça?
Je vais donner encore un exemple,
oui.
Yannick. La démocratie numérique.
Oui.
Actuellement, le moindre scandale. Il y a une sorte de transparence aujourd'hui. Il peut toujours y avoir quelqu'un qui a un téléphone cellulaire avec une caméra et qui va filmer. On a vu des
exactement.
Exemples. En Iran, quand il y a la répression, c'est immédiatement sur la planète entière. Donc, ça limite quand même. Ça retient des abus. On peut toujours craindre d'être vu. Et ça, c'est la peur de la sanction. Mais c'est quand même grâce à cette sorte de panopticon numérique que nous avons maintenant.
Alors, donc, les progrès technologiques et les progrès éthiques peuvent aller la main dans la main. Et d'ailleurs, il faut le dire en terminant que ce sujet de réflexion, de questionnement, eh bien, les collégiens, enfin, les cégepiens, les cégepiennes du Québec vont s'intéresser à tout ça dans les semaines à venir. Il faut le signaler.
Oui, il y a un concours philosophé au niveau des cégeps. C'est déjà en soi une chose magnifique à notre époque. La deuxième chose, je le dis parce qu'ils m'ont demandé d'être président d'honneur et c'est un grand plaisir que j'ai accepté. Bien sûr, j'étais très flatté de ça. Parce que c'est vraiment intéressant de voir que des jeunes, on leur propose de réfléchir sur une question comme celle dont nous parlons aujourd'hui.
Ils vont devoir plancher sur quoi, alors?
Ben, justement, sur les relations entre l'évolution, le progrès technologique et l'évolution de la morale. Alors, c'est une question qu'on va dire classique, mais en fait, c'est pas une question scolaire. C'est une question absolument qui nous touche directement, collectivement, humainement. Puis je voudrais encore citer un dernier point, Raymond Aron.
Oui.
Raymond Aron, c'est quelqu'un qui a écrit des livres extrêmement importants. Qui fut mon maître, effectivement, je m'en honore, sur la dissuasion nucléaire. Depuis que la bombe atomique existe, comme on a dit, c'est pas parce qu'on l'a qu'on va s'en servir. Et c'est même, ça retient le bouton rouge ou la main sur le bouton rouge. Et donc, y a un principe de prudence qui se développe du fait que la technologie devient extrêmement puissante et dangereuse.
Et bien sur ces paroles de sagesse, mon cher Hervé, président du concours philosophé dans les cégeps, je vous remercie beaucoup. On lira les travaux des étudiants avec plaisir.
Merci Yannick.
Et c'est la fin de la première heure des Lumières. Je vous invite à regarder ce soir à la télévision de Radio-Canada à 18h30 Découverte qui diffuse le premier épisode, la première heure d'une série de 10 sur la grande aventure de la Terre. C'est une série qui a été produite par la BBC, donc ça commence ce soir pour 10 semaines. Ça dit, vous restez avec nous après les nouvelles, la deuxième heure des Lumières. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu et l'équipe pour vous présenter le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors la deuxième heure, elle commence avec Sophie-André Blondin qui va nous emmener à Québec au Musée de la Civilisation pour visiter l'exposition sur la pensée. Après le petit journal de la science, je vous parle de génétique, plus précisément de séquençage de génome complet de patients. Et oui, c'est commencé. Et pour terminer l'émission, Sophie André reçoit l'auteur de la semaine. Il s'appelle Carlo Rovelli. Il a publié un livre intitulé « Anaximandre de Millet ou la naissance de la pensée scientifique » aux éditions Duno. Anaximandre de Millet vivait il y a 25 siècles en Grèce. Alors, il y a un endroit en ce moment où vous pouvez, d'un seul regard, embrasser le crâne d'un Cro-Magnon et celui de Descartes, oui, de Descartes, René de son petit nom, celui qui pense et qui est. En prime, vous verrez aussi la petite Lucie, notre ancêtre, quelques peintures rupestres, des vilebrequins pour faire des trépanations, c'est charmant. Cet endroit, c'est le Musée de la Civilisation à Québec où l'on présente l'exposition « Copyright humain ». Ce « Copyright », c'est celui de la pensée. Qu'est-ce que la pensée? Qu'en est-elle dans notre évolution? Où se loge-t-elle dans notre corps? Que deviendra-t-elle avec les développements de la technologie? Sophie-André Blondin a visité cette exposition Réflexion sur la pensée.
Bienvenue dans l'exposition Copyright humain. L'exposition que vous allez visiter porte sur la pensée humaine. C'est notre copyright.
Le mot « copyright humain » est arrivé, on s'est dit « oui, c'est ça, ça colle très bien » parce que dans le fond, ce qu'on représente tout au long de l'exposition, c'est vraiment les résultats tangibles de l'imagination humaine. Monique Lippé, chargée de projet au Musée de la Civilisation. On a divisé l'exposition en trois grandes zones. D'abord le préhumain, l'humain et le post-humain. Donc, dans le préhumain, ce qu'on appelle la pensée fossile, on commence l'exposition avec deux tableaux qui ont été réalisés par le chimpanzé Congo dans les années 50, qui s'était supervisé par Desmond Morris.
Les peintures que vous voyez à votre gauche sont le fruit de Congo. Le zoologiste Desmond Morris lui a donné un pinceau et des couleurs afin d'explorer la créativité chez l'animal.
Alors, on tombe à l'humain, ou en tout cas aux origines de l'humain.
Aux origines. Alors, on a traduit ça par le biais d'un arbre phylogénétique. Et celui-ci, on l'a fait avec notre chercheur, collaboratrice, paléo-anthropologue Michel Drapeau de l'Université de Montréal.
On se doutait que les hominidés étaient bipèdes avant la découverte de Lucie, mais avec Lucie, ça a vraiment confirmé là, que c'était le cas.
Ensuite, on arrive à la section où on va parler un peu plus en profondeur de l'importance de la bipédie. On a pris comme exemple Lucie, qui est probablement l'hominidé.
Qui est là? Elle est
oui,
là?
Oui, la plus connue. On a volontairement décidé de la placer sur une plateforme très basse pour que les gens voient bien comment elle était petite. Et on a aussi, avec nos techniciens, on a voulu la présenter en trois dimensions parce que souvent, les ossements de Lucie, c'est une reproduction, évidemment, parce que l'original est en Éthiopie. On a voulu, nous, la mettre en trois dimensions, la mettre debout, en état de marche.
Alors, toujours avec l'aide de notre paléo-anthropologue, on a réussi à lui donner un mouvement le plus près possible de la réalité de ce qu'on s'imaginait être à cette époque.
Elle est vraiment petite.
Hein? Oui, vraiment petite. Trois pieds à peu près. Alors, on a vidéo avec toujours notre paléo-anthropologue qui explique l'importance de la bipédie et l'expansion du cerveau.
À partir du moment où on est bipède et qu'on est exclusivement bipède, c'est-à-dire qu'on a abandonné la niche arboricole, nos mains ne servent plus du tout à la locomotion. Donc, on a...
Alors, on a aussi deux objets majeurs dans l'exposition, un crâne de Cro-Magnon et le crâne de Descartes.
Alors, le vrai crâne Descartes.
Le vrai Descartes. Enfin, le muséum nous dit que c'est le vrai.
Mais c'est dans ce crâne-là qu'est née la phrase.
Je pense donc je suis. Alors, pour nous, c'était vraiment un incontournable.
Le Musée de l'Homme reconnaît ce crâne comme celui de René Descartes. Et c'est ainsi que nous vous le présentons. Il n'y a que la science, si chère aux philosophes, qui pourrait éventuellement clarifier cette question.
Je suis Michel Maziade, psychiatre, chercheur en génétique des maladies neuropsychiatriques et directeur du Centre de recherche de l'Université Laval, Robert Giffard.
Ça fait très drôle, effectivement, de se retrouver de balayer d'un regard le crâne de Descartes qui est devant nous et le squelette de Lucy qui est à notre droite.
C'est impressionnant parce que ça nous montre que nous sommes tout petits. C'est très impressionnant. Et une autre raison, c'est que la pensée, historiquement, scientifiquement, n'a pas toujours eu son siège dans le cerveau. Puis à l'époque, on n'avait aucune idée des neurones, des milliards de neurones et tout, là. Donc, c'était une intuition géniale. Je pense, donc je suis, de Descartes.
Et seulement ici, peut-on passer de Homo habilis au crâne de Descartes, suivez-moi, en passant à côté du squelette de Lucy, l'australopithèque tout petite, pour se diriger vers le cerveau objet de science, le cerveau objet d'étude, et là, c'est votre spécialité à vous, le cerveau quand il va bien, siège de la pensée, le cerveau quand il va moins bien aussi.
Quel est le lien entre le cerveau et la pensée? Il est fondamental, puisque la pensée est enracinée dans les méandres du cerveau. Pourtant, les scientifiques et les philosophes se sont longuement questionnés sur le siège de la pensée.
Ça nous permet de nous remémorer qu'il y a à peine, dans les années 50 à 70, nous pensions internationalement que ce qui créait une déviation de la pensée vers la schizophrénie ou la psychose maniaco-dépressive, c'était l'éducation prodiguée par la mère. Mais on sait maintenant que... il y a des vulnérabilités génétiques qui, à elles seules, ne peuvent pas créer la maladie. Donc, il faut que certains facteurs dans l'environnement, physiques, viraux, psychofamiliaux, interagissent avec la vulnérabilité génétique pour nous orienter la personne vers le parcours.
Et une chance que pour déterminer tout ce dont vous nous parlez, vous n'avez pas utilisé soit des tranches de cerveau comme on en voit ici, parce que non, c'est des cerveaux plastinés.
Oui, puis c'est l'époque d'il y a un siècle. C'était extraordinaire de commencer à étudier l'anatomie du cerveau. Et historiquement, pour les malades en psychiatrie au début du siècle, vous savez, on les saussait dans l'eau froide ou l'eau glacée. On essaie de trouver des moyens. Les médicaments sont arrivés en 1952 seulement. Moi, comme médecin résident et interne au début des années 70, nous pratiquions encore l'insulinothérapie lorsque les médicaments ne fonctionnaient pas chez les malades sévères. Donc, nous passions les patients psychiatriques en coma diabétique et nous les ramenions, ce qui donnait un certain effet. Alors, on oublie toutes ces choses-là.
Dans la partie sur le cerveau, on a aussi des documents vidéo, dont une opération du cerveau qui a été réalisée en février 2009.
On les voit justement en ce moment avec le bistouri.
On a vraiment... cette opération-là dure plus de 6 heures, mais nous, on a pris le document, on l'a réduit à 4 minutes pour montrer les séquences en particulier où on voit le patient qui est conscient et qui répond au chirurgien pour le guider, en fait. Alors, ça démontre aussi en même temps les avancées technologiques en neurosciences.
Une chance, d'ailleurs, parce que quand on avance dans l'exposition avec les anciens instruments, on tombe sur un crâne percé. Une chance que la science a changé.
Oui. Puis quand on voit la grosseur des instruments pour faire les trépanations, il y a à peine 50 ans, ça donne des frissons. Mais en même temps, on se dit que c'est comme ça que la science a évolué. Je pense que c'est important de montrer ces outils-là. Ça fait toujours un peu... on voit quand même la grosseur des...
du vilebrequin, là, si on peut dire.
Oui.
Alors,
Et si les gens veulent en savoir encore plus, il y a même le docteur Parent qui peut leur expliquer.
Le centre de recherche Robert Giffard, qui nous parle en fait du langage neuronal.
Communiquer entre eux, se parler entre eux. En fait. Certains neurones, on les dit par exemple unilaires, parce qu'ils utilisent une seule molécule pour communiquer avec le neurone suivant dans la chaîne.
On avance dans l'histoire de notre pensée.
On débute la section sur un animal culturel, donc l'humain. Et dans cette première section, on veut démontrer l'importance du rituel et ce qu'on appelle l'art signé Homo sapiens. On présente différentes pièces, donc des plaques de grottes avec des peintures rupestres qui nous viennent de Mauritanie. Et on a un corps des tourbières. Pour tout ça, toujours dans le but de démontrer que l'humain a commencé à vouloir enterrer ses morts, donc à créer des rituels, donc à réfléchir à l'au-delà, finalement.
Avoir conscience de sa propre existence,
exactement,
de sa
mort. Et donc, tous les objets qu'on a choisis pour cette zone-là sont toujours en lien avec cette idée.
C'est sûr, c'est la calculatrice.
Non, je viens de...
Penser, c'est organiser la réalité, c'est classer, c'est calculer, c'est observer. Alors, et c'est ce qu'on voit.
Donc, c'est la troisième partie sur la parole, les langages, que vous l'avez dit, l'écriture, les instruments de navigation, la cartographie, le collectionnement. Enfin, tous ces objets qui sont témoins de toutes ces préoccupations de l'humain pour toujours mieux comprendre son environnement et le monde dans lequel il vit.
Les jeunes qui ont des calculatrices de poche seront intéressés de voir une calculatrice ou une calculette, en tout cas, un instrument beaucoup plus gros.
Oui, un petit peu plus gros. La pascaline inventée par Blaise Pascal.
Et la lunette de Galilée à côté.
Exactement, oui, c'est ça.
La lunette?
Oui.
Une
des lunettes, il y en a plusieurs. Alors, on arrive aussi toujours à cette zone de transition avec des œuvres artistiques qui... on a entre autres une œuvre de Robert Racine, l'artiste québécois, qui travaille avec les dictionnaires, l'idée du mot, l'assemblage. Donc, il va triturer les pages de dictionnaire.
il a enlevé des mots.
C'est ça, mettre un miroir derrière. Alors, on est vraiment dans le... Comment dire, l'abstraction, comment la pensée humaine est capable d'aller vers l'abstraction.
Avant d'aller à l'abstraction, elle a été très concrète. Vous avez ici une roue romaine.
La roue romaine. Donc ici, on est dans la section, la dernière partie sur la pensée humaine, c'est-à-dire l'idée, la capacité de l'humain à créer autant de l'art que des objets du quotidien. Donc, cette roue-là date de plus de 2000 ans. C'est une des rares conservées parce qu'elle était dans les tourbières aux Pays-Bas.
Vous travaillez toujours debout, je pense, ou à peu près toujours debout. Oui, mais
Je ne voudrais pas oublier cette section-là qui est une collaboration avec Stéphane Bureau, la série Contact. On a choisi des extraits avec des créateurs qui nous parlent du fonctionnement, l'évolution de la pensée créatrice, comment ils arrivent à créer les œuvres, chacun dans leur domaine. On a Robert Lepage, on a Éric-Emmanuel Schmitt et...
Enki Bilal.
Enki Bilal, le grand bédéiste. Alors, c'est vraiment intéressant de les écouter parler de leur processus créatif.
Et j'aime le chaos. Je suis quelqu'un qui aime l'insécurité, l'incertitude, le manque de structure. J'adore la désorganisation. C'est là-dedans que les choses les plus intéressantes poussent.
Et là, on quitte l'humain pour aller vers le post-humain. Là.
C'est ça, exactement. On introduit la zone sur le post-humain avec l'œuvre. C'est une commande, en fait, que le musée a fait auprès de l'artiste québécois Louis-Philippe Demers, qui est un artiste roboticien.
Je me sens observée tout d'un coup, là.
Oui, c'est ça. Alors, il y a 60 crânes avec des yeux qui sont dotés de caméras et qui sont capables de détecter les visages.
Donc, il sait que je suis là, il me suit des yeux.
Oui, c'est ça. Alors, qu'ils réagissent à la présence de visages. Pour nous, c'était une manière d'introduire à la post-humanité. Alors, qu'est-ce qui attend l'humain à travers les avancées technologiques?
Et on termine l'exposition avec une installation multimédia. Alors, on est parti de l'idée de faire des entrevues avec des penseurs de notre époque qu'on considérait comme importants. On a entre autres Albert Jacquard, Hubert Reeves, on a le moine bouddhiste Mathieu Ricard.
Notre collaborateur Yves Gingras.
Yves Gingras, exactement, et chercheur sur notre projet. Alors, on demandait à ces gens-là sensiblement toujours les mêmes questions, à savoir est-ce que la technologie va influencer la manière de penser des humains, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années. Et on a voulu vraiment concentrer le discours, ne pas aller en futurologie, c'est-à-dire de se retrouver dans 50 ans et tout ça, mais d'aller vers un futur proche.
Ce qui m'intéresse pas, c'est l'humain, c'est le surhumain.
Le lien entre la pensée et le corps, bien évidemment, en neurobiologie contemporaine, c'est la grande question.
There are two aspects that are special about human thinking. One is that we recognize.
Avant qu'on me convainque qu'un robot peut penser, je pense que tout ça va dépendre du sens qu'on veut donner à penser. Et une belle réflexion sur ça, c'est le fait.
Et vous terminez sans donner à voir. C'est sombre ici. Il y a des petits cubes si on a envie de s'asseoir. Oui. C'est comme si vous terminiez en disant arrêtez de regarder maintenant, pensez.
Penser. Exactement. Puis l'installation est travaillée sur la réflexion. Alors, on a des téléviseurs au plafond qui reflètent une image sur un écran et qui reflètent aussi dans des plaques de verre qui sont au sol. Donc, on peut s'asseoir et regarder. On a l'impression de regarder dans un trou noir et de voir là des mots, de la pensée. Donc, c'est tout ça est très symbolique et conceptuel. C'est ce qu'on a voulu pour terminer l'exposition.
Merci beaucoup de cette visite.
Ben, ça m'a fait un grand plaisir.
Sophie-André Blondin, qui était guidée par Monique Lippé, chargée de projet au Musée de la Civilisation à Québec, où l'exposition Copéra être humain est installée jusqu'à l'automne. Mais si vous ne pouvez pas vous rendre au musée, le musée peut venir à vous. Un micro-site Internet regroupe les informations, les extraits audio, les extraits vidéo qui accompagnent les visiteurs. C'est une visite en quelque sorte par la pensée, bien sûr, à laquelle on accède par le site du Musée de la Civilisation.
La capitale canadienne n'est pas seulement une ville de fonctionnaires, c'est aussi une ville de fossiles. Et de fossiles rares, dans la dernière édition de la revue Paleontology, des chercheurs du Royal Ontario Museum de Toronto décrivent un spécimen rarissime de ver annélide qui a vécu il y a 450 millions d'années et dont le fossile a été découvert en plein centre-ville d'Ottawa. Parmi les annélides d'aujourd'hui, on retrouve entre autres les vers de terre et les sangsues. Mais ce vieux ver, un machéridien d'un centimètre et demi de long, avait plutôt la forme d'un mille-pattes assez large, recouvert d'une armure minérale formée de plaques mobiles. Les scientifiques n'en connaissaient que 8 spécimens dans le monde. Leur découverte a permis de relier ces animaux disparus aux annélides et de comprendre un peu mieux l'histoire de l'évolution de ces vers d'un âge vénérable.
En Grande-Bretagne, le chien de garde de la publicité vient de blâmer une agence gouvernementale pour le ton trop affirmatif utilisé dans des annonces sur les risques liés au changement climatique. S'inspirant de comptines enfantines, les publicités de la campagne Act on CO2 Now évoquent les risques d'inondations et de sécheresse liés à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Plus de 900 personnes se sont plaintes auprès de l'Advertising Standards Authority après avoir vu ces publicités. L'ASA a finalement décidé de bannir 2 des annonces visées, précisant que les affirmations auraient dû être plus nuancées compte tenu de l'incertitude associée au changement climatique. À noter qu'après analyse du dossier, l'ASA a également statué à l'effet que les 3 autres publicités de cette campagne avaient-elles toujours le droit d'être diffusées.
«
On la trouve dans la constellation du Serpent, à 1500 années-lumière de la Terre, et elle fait le tour de son étoile en 95 jours. Voici Corot 9b, la toute dernière des 430 exoplanètes qui ont été détectées à ce jour. Comme Jupiter, elle est principalement composée d'hélium et d'hydrogène, et son diamètre fait environ 11 fois celui de la Terre. Mais ce qui fascine surtout la soixantaine de scientifiques qui l'ont détectée grâce au satellite français Corot, c'est la température qu'il fait sur la surface de Corot 9b, entre moins 20 et 150 degrés Celsius. C'est que la planète se trouve 10 fois plus loin de son étoile que les autres exoplanètes connues. Son atmosphère ne risque donc pas de s'évaporer, a confié un chercheur à l'édition en ligne du Figaro. Et il sera possible de l'étudier et d'en tirer de précieux enseignements. La découverte de Corot 9b fait l'objet d'un article dans la revue Nature.
Coup sur coup, deux grandes revues scientifiques viennent de publier deux articles montrant l'intérêt médical du séquençage complet, j'ai bien dit complet, du génome, non seulement d'un patient, mais aussi de plusieurs membres de sa famille. Ces recherches, publiées dans Science et dans le New England Journal of Medicine, ont permis d'identifier les mutations génétiques à l'origine des maladies rares dont souffraient ces patients. L'une de ces maladies est le syndrome de Charcot-Marie-Tooth, qui affecte les nerfs des mains et des pieds et qui entraîne une faiblesse musculaire. C'est une équipe du Baylor College of Medicine à Houston qui l'a étudiée, une équipe dont fait partie le docteur Marie-Claude Gingras. Je l'ai jointe jeudi par téléphone à Houston.
On avait un patient qui avait été diagnostiqué avec le Charcot-Marie-Tooth syndrome. Et le syndrome en question est connu pour certaines mutations bien spécifiques sur plusieurs gènes. Mais le patient n'avait aucune de ces mutations, mais il avait tous les symptômes associés à ce désordre. Donc, on savait qu'il y avait probablement d'autres gènes qui étaient impliqués, d'autres mutations, mais on n'avait aucune idée de quel gène en question. C'est la raison pour laquelle on a décidé de séquencer le génome complet de cet individu pour pouvoir retracer l'origine de sa maladie.
Ça veut dire que la vieille idée, là, une maladie égale une mutation dans un gène bien particulier, c'est rarement vrai, hein?
C'est rarement vrai, en effet. Il y a seulement quelques maladies comme la fibrose cystique qui a une mutation, un gène. Bien souvent, il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans des chemins métaboliques. Donc, une mutation dans un de ces gènes qui sont impliqués dans le même métabolisme, à ce moment-là, va causer le symptôme.
Alors, on a décidé donc de faire la séquence complète du génome de ce patient-là, puis ainsi que de plusieurs membres de sa famille, d'ailleurs. Ça paraît énorme parce que séquencer un génome, le génome d'un humain, c'est quelque chose qui était, comme il y a quelques années encore, comme un exploit international. Là, on l'a fait presque facilement.
Oui, c'est devenu une chose présente. Autrefois, ça avait pris le premier génome humain qui a été séquencé, a pris 13 ans à être séquencé. Et ça a coûté à ce moment-là 3 billions de dollars. Il y a eu plusieurs...
3 milliards de dollars, hein, oui.
Oui, il y a 16 institutions qui avaient été impliquées dans le séquençage du premier génome. Mais présentement, la technologie a tellement évolué qu'on n'utilise plus du tout les mêmes techniques. On a de nouveaux appareils pour séquencer le génome et on peut le faire en l'espace de moins de 2 semaines à un coût de 25 000 $.
On n'est plus du tout à l'ancienne méthode. On a des nouveaux appareils, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'analyser les résultats aussi, c'est ça?
On a en fait 3 générations d'appareils présentement. L'ancienne génération qui prend des mois et des années à pouvoir séquencer un génome. Mm-hmm. Et on a une 2e génération et dans le futur très proche, on a une 3e génération qui va être aussi disponible dans laquelle on promet d'ici quelques années de pouvoir séquencer un génome complet en l'espace d'une heure.
Et à quel
prix? Ça, c'est dans le futur. Ah. On veut atteindre un taux de 1 000 $ et descendre à 100 $.
Et tout ça n'est possible que depuis 2 ans environ. Cela dit, ces séquences de génome complets ont beau être plus faciles, moins chères à réaliser aussi. C'est pas demain la veille qu'elles vont être utilisées de routine avec les patients, même si on a, si je puis dire, leur génome complet au fond sur la table. On est effectivement entré dans une nouvelle ère de la génétique médicale, dit le généticien Daniel Sinette. Mais il faut encore apprendre à se servir de ces outils. Le docteur Sinette est un spécialiste du cancer attaché au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal.
Je dirais que le génome est sur la table, c'est vrai, on a toute l'information. La difficulté, c'est d'aller chercher dans le 3 milliards de paires de bases qui est généré l'information pertinente pour le diagnostic ou pour la valeur prédictive de la maladie. Donc, il y a beaucoup de travail au niveau de l'analyse de données. Puis, je dirais que c'est le défi des prochaines 2, 3, 4, 5 ans, la capacité d'aller chercher cette information-là au niveau du génome.
Et si on voulait donner une image de cette difficulté-là, donc on se dit, on a toute la séquence du génome d'une personne, mais c'est pas aussi... Il faut manipuler beaucoup, beaucoup plus d'informations que les 3 milliards de paires de bases.
Oui, tout à fait, parce que la façon dont cette technologie-là génère l'information, c'est des petits bouts de séquences. Donc, imaginez que vous avez un livre de 3 milliards de lettres et que vous avez, vous, des mots d'environ 25 à 30 lettres. Et vous devez trouver dans le livre où se situent ces mots-là. Et une fois que vous l'avez situé, vous voulez vous assurer que c'est vraiment au bon endroit, la bonne ligne à la bonne page. Donc, il y a un processus ici d'analyse qui est difficile parce qu'on veut s'assurer, évidemment, dans un cas de diagnostic, qu'on met le bon mot au bon endroit dans le bon livre, faire le bon diagnostic, par exemple. Donc, il y a une grosse difficulté analytique à cause de ça.
Et est-ce qu'on est actuellement sûr que ces technologies-là produisent une information de très haute qualité?
Ça va dépendre du design expérimental, finalement. Donc, par exemple, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on veut s'assurer dans ces expériences-là de voir, je faisais allusion tout à l'heure à ce mot-là de 25 lettres. Donc, on veut s'assurer de voir ce mot-là de 25 lettres plusieurs fois. Donc, dans les expériences typiques présentement, on parle de 20 à 30 fois. Donc, si on voit le même 25 lettres 20 à 30 fois et qu'on le localise toujours au même endroit, à ce moment-là, on est sûr. Bon, évidemment, avec une certaine marge d'erreur, très faible quand même, on est sûr que la séquence qu'on voit est la bonne et que la variabilité qu'on a vue est une vraie variabilité. Donc, c'est la façon de s'assurer finalement de la qualité des résultats, c'est le nombre de fois qu'on va refaire l'expérience finalement.
Donc, c'est comme si on reséquençait le même génome 25 à 30 fois?
Tout à fait. C'est ce que la technologie nous permet de faire. On peut reséquencer un génome humain ou une partie du génome humain 20 ou 30 fois pour s'assurer de voir la même séquence 20 ou 30 fois.
Alors, compliqué, effectivement, mais quand même de plus en plus faisable. La généticienne Catalina López-Correa est vice-présidente aux affaires scientifiques de Génome Québec à Montréal. Ces nouvelles possibilités de la génétique lui font dire, à elle aussi, que les temps changent et à toute vitesse.
Pour nous, c'est vraiment une joie de voir comment la technologie génomique, d'abord, ça avance à une vitesse qui est incroyable. Et ça commence à donner des résultats vraiment concrets qui s'appliquent à la santé, que ce soit pas uniquement des résultats au niveau de la recherche, mais des résultats qui ont un impact très clair sur la santé des individus, en particulier comme ici dans le cas de la maladie Charcot-Marie-Tooth, qui c'était un des articles. Donc c'est vraiment pour nous une joie de voir que, pour nous, notre métier, c'est vraiment de promouvoir la génomique, promouvoir ces applications. Ces articles, c'est vraiment un exemple très concret de cela.
Pour quelqu'un comme vous qui travaillez dans un organisme qui s'appelle Génome Québec, qui est un organisme qui subventionne des chercheurs, qui fait des choix, je dirais, stratégiques de recherche, d'investissement aussi. Qu'est-ce que ça dit, ce genre de publication-là?
Pour nous, c'est encore très important. C'est une publication qui nous assure et, dans certaines manières, oui, nous montre que Génome Québec va vraiment dans la bonne direction. On vient de lancer un concours justement en santé humaine pour l'application de la génomique en santé humaine. On vise aussi une stratégie axée sur la médecine personnalisée. Tous ces tests génétiques et tous ces diagnostics et séquençages de génome individuel visent vraiment vers cette médecine avancée, médecine personnalisée, où on peut avoir un médicament qui est dessiné presque pour une personne en fonction de son génome. Donc nous aussi, l'autre composant qu'on trouve très important, c'est la partie translationnelle, c'est-à-dire que pas utiliser la recherche en génomique uniquement pour trouver des choses intéressantes au niveau de laboratoire, mais pouvoir appliquer toutes ces découvertes pour la santé d'un patient, pouvoir les traduire, pouvoir les amener vers les patients, vers la clinique.
Alors cette génétique à grande échelle va aussi permettre de mettre au point dans un avenir plus ou moins rapproché des médicaments beaucoup mieux adaptés aux patients. De nouveau, la docteure Marie-Claude Gingras du Human Genome Sequencing Center au Baylor College of Medicine à Houston.
En effet, c'est une des applications parce que présentement, une compagnie pharmaceutique qui veut développer un médicament va aller en phase 1 pour pouvoir tester son médicament et en phase 2 et 3 et en progressant justement durant les différentes phases qui permettent de tester le médicament, on se rend compte que de plus en plus de personnes qui réagissent, qui ont une réaction contraire au médicament. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est dû à certaines bases présentes dans un gène qui fait que la personne va réagir d'une façon drastique au médicament.
Oui.
Donc, il y a plusieurs médicaments qui sont laissés de côté alors que il pourrait bénéficier à une sous-population et il pourrait être mis sur le marché et bénéficier fortement à cette population. Mais étant donné que présentement, on juge les médicaments sur un effet global sur plusieurs milliers de personnes, donc on ne peut pas utiliser ces médicaments. C'est bénéfique par contre à certains.
Retombée pratique aussi pour la recherche sur cette maladie ultra complexe qu'est le cancer. Là-dessus, le docteur Daniel Sinette du laboratoire de génétique moléculaire du cancer au CHU Sainte-Justine à Montréal.
Pour nous, c'est un outil merveilleux. Hein. Comme je dis souvent, le cancer, pour moi, c'est une maladie du génome. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réarrangements, des translocations, des inversions, des délétions, des amplifications, des mutations qui apparaissent à différents endroits. Donc, c'est vraiment une maladie du génome. Et la difficulté jusqu'à tout récemment, c'était d'avoir ce portrait global-là ou cette vision du paysage génomique au niveau de la cellule cancéreuse. Donc, on s'intéresse aux grands bouleversements. Et évidemment, à travers tout ça, il y a quand même des gènes qui sont importants. Donc, on appelle ça des gènes qui vont causer le cancer ou la leucémie ou d'autres types de cancers qu'on veut trouver. Mais on doit quand même avoir l'image globale de ce qui se passe. Et il y a très peu d'outils qui nous permettent de le faire. Et ça, c'est le premier outil vraiment qui nous permet de faire ce genre de travail, comparer la cellule cancéreuse avec la cellule normale, voir les différences au niveau génomique. Et on voit d'ailleurs dans la littérature présentement les premières retombées là, lorsqu'on fait du séquençage de génome, la capacité d'identifier de nouveaux réarrangements, de nouveaux gènes impliqués dans différents types de cancers. Ça va être une révolution au niveau de la génomique du cancer.
Et est-ce qu'on voit, par exemple, justement, en génomique du cancer, est-ce qu'on voit, on a commencé à dire, hop, on n'avait pas vu telle chose, hop, on n'avait pas compris tel mécanisme, ça, c'est aussi important que ça?
Oui, tout à fait. Il y a quelques papiers qui ont été publiés sur la leucémie myéloïde aiguë, qui est un autre type de leucémie qu'on trouve, entre autres, chez l'adulte. Et on a trouvé, suite à des expériences de séquençage, qu'il y avait certains, évidemment, on a retrouvé des gènes qu'on s'attendait de voir qui étaient mutés dans ces cellules cancéreuses-là, mais on a trouvé d'autres types de gènes qu'on n'avait aucune idée qui pouvaient être mutés dans les cellules leucémiques. Donc, par une approche de gènes candidats, par une approche, par exemple, si on choisit les gènes d'emblée, on aurait manqué notre coup. Donc, c'est ça l'avantage aussi de l'approche génomique, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'hypothèse a priori. Donc, on décide pas d'avance quels gènes sont importants, on regarde ce qui se passe. Et après ça, bon, on essaie d'interpréter les résultats. Donc, on a vraiment trouvé de nouveaux gènes à ce moment-là. La même chose pour un autre cancer pédiatrique qui s'appelle le neuroblastome. On a trouvé des gènes qu'on ne doutait pas du tout qui étaient mutés.
Bref, on commence avec des publications comme celles qui viennent de sortir dans Science et aussi dans le New England Journal of Medicine. On commence à voir la médecine de demain quand même prendre corps. Catalina Lopez-Correa de Génome Québec.
On s'en va vers une médecine beaucoup plus personnalisée où on va pouvoir utiliser la génétique à plusieurs niveaux. On va utiliser la génétique et la génomique pour découvrir des nouveaux médicaments. On va utiliser la génomique pour stratifier les patients, comprendre que tous les patients qui ont une diabète ou qui ont une maladie complexe ou qui ont un cancer, ils sont pas tous pareil, qui a des différents génétiques qui vont nous aider à nous guider dans les traitements qu'on va faire à un patient déterminé. Il va nous aider aussi à prévenir des maladies, même il y a des cas là de variants qui vont nous aider à prévenir quelle personne va pouvoir avoir une maladie cardiovasculaire ou pas. Donc, il y a vraiment, je pense que la génétique devient un élément crucial pour cette médecine qui est beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus efficace. On a des exemples aussi concrets pour les cancers de sein où il y a des marqueurs génétiques qui aident à savoir quel patient bénéficie de quel traitement. Donc, on ne va pas donner des traitements toxiques comme les traitements pour les cancers à des patients qui ne vont pas bénéficier, mais uniquement à des patients, des femmes qui vont vraiment bénéficier d'un traitement. Donc, c'est plutôt vers cette médecine beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus efficace qu'on va avec la génétique.
C'était Catalina Lopez-Correa, qui est vice-présidente aux affaires scientifiques à Génome Québec, à Montréal. Et auparavant, on a entendu Marie-Claude Gingras du Human Genome Sequencing Center au Baylor College of Medicine à Houston et Daniel Sinette du Laboratoire de génétique moléculaire du cancer au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal. L'auteur de la semaine, pour terminer, pour le physicien Carlo Rovelli, puisque c'est lui l'auteur de la semaine, la pensée scientifique est née au profit d'une révolte, dite savante, une révolte qu'a osé un personnage méconnu de l'histoire des sciences et de la philosophie, Anaximandre de Milet. L'histoire s'est passée il y a 26 siècles et depuis, le monde a changé et la pensée scientifique est née. Co-inventeur de la théorie de la gravité quantique à boucle, le physicien Carlo Rovelli raconte cette histoire dans le livre « Anaximandre de Milet ou la naissance de la pensée scientifique » qui est publié aux éditions Dunod. Sophie-André Blondin l'a joint dans les studios de France Bleu à Aix-en-Provence.
C'est un géant, Anaximandre, un géant de la pensée. Et je dirais seulement récemment, et il y a des œuvres qui se sont concentrées sur lui et qui met en valeur l'héritage énorme qui est le sien. Donc là, on est il y a 26 siècles, donc on est 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est un siècle pas très connu. On est presque 200 ans avant le grand siècle grec de Périclès, de Platon, de Socrate, d'Athènes. Et on est à Milet. Milet, c'est une ville, c'est une cité grecque qui se trouve sur la côte de celle qui aujourd'hui est la Turquie. Et là, il y a une école de pensée, Thalès, peut-être plus connu par le grand public qu'Anaximandre, Anaximandre lui-même et d'autres, Anaximène, qui est parfois présenté à l'école ou dans l'histoire des philosophies comme le début de la philosophie occidentale. Je ne sais pas si les auditeurs de Radio-Canada se rappellent quelque chose à l'école sur Thalès, Anaximandre, Anaximène, souvent présenté de façon un peu nuageuse comme des premiers philosophes qui se posent des questions sur le monde de façon un peu fumeuse. Je pense que cette image fumeuse d'Anaximandre en particulier est très imparfaite. En le regardant un peu plus du près, on s'aperçoit que là, il y a un tournant majeur de la pensée. C'est le premier moment où s'ouvre la pensée scientifique, celle que les Grecs appelaient la périphysée à historie, à l'investigation de la nature. Et c'est le début du regard rationnel sur le monde, les premières questions rationnelles sur la nature. Et pour moi, c'est la source première de cette grande aventure qui est la science, qui continue aujourd'hui.
Anaximandre à Milet, il y a 26 siècles, a donné le souffle, a donné l'élan à la science qui continue d'avancer aujourd'hui, d'après vous.
Voilà. D'après moi et d'après d'autres, quelqu'un écrit que dans un certain sens, le grand développement de la connaissance qui est devenu la science contemporaine, on peut même le voir comme le projet initial d'Anaximandre, qui a grandi, bien sûr. Mais certainement, c'est lui qui a posé les premières questions et qui a donné des réponses étonnantes et qui a fait les premières grandes révolutions de la pensée dans plusieurs champs qui sont les différentes sciences aujourd'hui.
Oui, à la fin de votre livre, Carlo Rovelli, vous dites Anaximandre de Milet était le premier géographe, premier biologiste, premier astronome. Et en tout début de votre livre, vous citez Pline qui dit « Anaximandre de Milet a été le premier à nous ouvrir les portes de la nature ». Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a observé? Qu'est-ce qu'il a conclu qui a été si important?
Alors, il a fait plein de choses. Faire une liste de tout, ce serait énorme. Mais je peux peut-être en citer deux. Une qui a à voir avec les phénomènes météorologiques, l'eau, Et l'autre, qui est peut-être sa plus grande découverte, qui est sa révolution cosmologique. Donc le premier, si vous demandez à un jeune étudiant de l'école primaire d'où vient l'eau de la pluie, il va vous répondre, l'eau de la pluie, c'est l'eau de la mer qui est évaporée, après est transportée par les vents, et tombe sur la terre, après sous forme de pluie, après retourne à la mer, et voilà, c'est le cycle de l'eau. C'est un exemple très beau de la beauté de notre monde, de la possibilité de la comprendre. Et ça, c'est ce cycle de l'eau, c'est Anaximandre qui l'a compris. Alors, pour comprendre l'importance de ça, je pense, ce qu'il faut dire, c'est que jusque-là, jusqu'au 6e siècle...
Avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, oui, donc c'est très longtemps. Tout ce que nous avons, des traces de ce que les gens pensaient, les livres, les documents, nous parlent du fait que tous ces phénomènes, le vent, la pluie, l'eau, étaient expliqués universellement en termes mythologiques ou religieux.
Donc, alors c'est Zeus qui lance des éclairs, c'est voilà. Poséidon qui fait les tempêtes sur la
mer. Oui. Exactement, voilà. Et donc l'humanité, pour des siècles et des siècles, la civilisation évidemment est beaucoup plus ancienne qu'Anaximandre, avait toujours pensé à ces phénomènes atmosphériques et météorologiques comme des manifestations, des choses incompréhensibles, des forces incompréhensibles qui ont à voir avec la divinité ou avec des dieux. Anaximandre arrive et propose une façon d'interpréter tout ça complètement nouveau, c'est-à-dire d'interpréter tout ça en termes de la nature elle-même.
Alors, une nature qui avance sans Dieu, c'est révolutionnaire 6 siècles avant Jésus-Christ.
C'est énormément révolutionnaire 6 siècles avant Jésus-Christ. Même aujourd'hui, penser à la nature sans Dieu, ça dérange beaucoup de gens. Évidemment, 6 siècles avant Jésus-Christ, c'était encore plus forte. Ça a été le début de ce regard rationnel naturaliste sur le monde.
Alors, une observation des phénomènes météorologiques qui fait appel à des causes naturelles plutôt que divines, la première grande contribution d'Anaximandre de Milet, Carlo Rovelli. Deuxième grande contribution, c'est une révolution cosmologique, rien de moins.
Oui, peut-être c'est ça sa contribution majeure absolue. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut comprendre ce que l'humanité pensait avant. Et avant, dans le monde grec, comme dans toutes les autres civilisations que nous connaissons, donc en Chine, en Amérique, les Mayas, les Incas, les civilisations de l'Afrique, toutes, l'image du monde a été toujours faite avec le haut, où il y a le ciel, et le bas, où il y a la terre. Donc, les choses tombent du haut vers le bas.
Ben, vu de la Terre, ça semble logique, effectivement.
Voilà, ça semble logique et c'est la structure fondamentale du monde pour toutes les civilisations. La Terre, pour qu'elle ne tombe pas, doit s'appuyer sur quelque chose qui peut être de la Terre à d'autres terres jusqu'à l'infini, ou bien des grandes colonnes, comme par la Bible, ou bien une grande tortue, comme de certains mythes asiatiques. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours le haut, non le ciel, en bas la Terre. Anaximandre arrive et suggère une image du monde complètement différente, qui est la suivante. La Terre ne s'appuie sur rien. Elle est une espèce de caillou qui flotte dans l'espace, dans le rien. Et le ciel est tout autour de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a du ciel sur nos têtes, mais il y a aussi le même ciel qui continue au-dessous de nos pieds.
Elle n'est pas nécessairement ronde, mais elle flotte, c'est ça?
Elle flotte. La grande découverte, c'est ça, qu'elle flotte dans l'aérien, c'est un caillou. Après, la forme de ce caillou va être comprise dans les générations suivantes. Mais la grande découverte, c'est celle-là, que la Terre ne s'appuie sur rien, elle flotte, un objet fini qui vole.
Et ça, il le fait en regardant le soleil, en se demandant où il va pour réapparaître de l'autre côté.
Oui, très bien. Ça, c'est la chose la plus intéressante. C'était pas si difficile, si vous y pensez une minute, d'y arriver à cette suggestion. Parce qu'enfin, le soleil tombe à l'ouest et après on va le revoir à l'est chaque matin. Tout le ciel, les étoiles, la lune, les planètes, on voit les tourner autour de nous. Donc, ils doivent passer sous nos pieds. Donc, il faut bien qu'il y ait de l'espace vide sous nos pieds. Le problème, c'était pas ça. Parce que si c'était si facile, pourquoi des siècles et des siècles des civilisations égyptiennes ou chinoises n'y sont pas arrivées? Pourquoi c'était si difficile? La raison, et là je pense qu'on arrive au cœur de la thèse de mon livre, le problème c'est que pour accepter que la Terre flotte dans le rien sans tomber, il faut changer l'image du monde, il faut redessiner le monde en profondeur. Il faut penser que le monde n'est pas fait de haut et bas, et surtout il faut penser que tout le monde s'est trompé, que notre père, notre grand-père, notre grand-grand-père et tous les gens autour de nous, ils se trompent tous. Et moi, Anaximandre, j'arrive et j'ai le courage de dire « Non, vous avez tout tort, moi j'ai une idée meilleure et celle-là est des meilleures. »
Et ça, se révolter contre les évidences qui sont autour de soi, mettre au défi les théories de ses maîtres, défier l'autorité des maîtres, c'est la grande révolution, c'est le début de la pensée scientifique qu'on doit à Anaximandre de Milet.
Exactement. Il a le courage, le premier, de se révolter contre les idées courantes et de avoir le courage de penser que le monde n'est pas ce qu'on voit, et surtout avoir le courage de penser que nos maîtres se trompent. Alors là, je veux ponctualiser, parce que je pense que c'est peut-être l'aspect central de sa révolution. Il ne critique pas totalement son maître. Son maître, c'était Thalès. Thalès était considéré par les Grecs un de sept sages de l'Antiquité, donc c'est un maître très respecté. Le monde ancien est plein de grands maîtres respectés et est plein de disciples de grands maîtres. Il y a Confucius et Mencius, il y a Jésus-Christ et Paul de Tarse, etc., etc. Dans tous ces cas, le disciple développe beaucoup les idées du maître. Par exemple, la base théorique du christianisme, c'est saint Paul, certainement. Mais jamais saint Paul ne dit ben « oui, là, Jésus se trompe ». Donc, dans l'Antiquité, on critique les autres, les différentes écoles, ou bien on suive le maître duquel on a respect. Alors, ce que découvre Anaximandre, et je pense que c'est là la grande découverte qui crée la science moderne et qui ouvre la possibilité du grand développement de la connaissance moderne, c'est qu'il trouve une troisième voie entre adhérer aux idées de maître et le critiquer. Et cette troisième voie, sa position vers Thalès, d'un côté, Anaximandre s'inscrit complètement dans la problématique de Thalès, il fait propre ses idées, ses intuitions, il fait propre toute sa connaissance, mais en même temps, il critique frontalement ses affirmations. Thalès disait « le monde est fait d'eau » et Anaximandre dit « non, non, pas du tout, il n'est pas fait d'eau » et Thalès disait « la terre flotte sur l'eau » et Anaximandre dit « non, 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 la terre flotte dans le rien, etc., etc., etc. » Et là, c'est exactement ce qui se passe chaque jour dans le développement scientifique dans tous les laboratoires du monde aujourd'hui et c'est, si vous y pensez, ce qui s'est passé avec Einstein ou Newton ou Copernic. Ce sont toujours des façons de penser qui n'est pas une révolte dans le rien, c'est une révolte savante. C'est-à-dire, la science s'appuie profondément sur tout le savoir précédent, fait propre le savoir précédent, et sur la base de ça, sur la base de l'avoir compris à fond, on va à la recherche des erreurs et des limites qui sont dans ce même savoir. Donc la science n'est pas basée sur des certitudes acquises, mais au contraire, est basée sur l'absence de certitudes, sur le doute qu'on a toujours que dans ce que nous savons du monde, il puisse avoir quelque chose de faux.
Mais faire de la science 26 siècles plus tard, et vous en faites, vous, Carlo Rovelli, vous êtes un scientifique de pointe au 21e siècle, on fait encore une science qui est basée sur ce comportement qu'a osé avoir Anaximandre de Milet il y a 26 siècles en mettant au défi certains aspects des théories de son maître.
C'est exactement encore comme ça. On se base sur tout ce que nous savons. On ne rejette pas tout, pas au contraire, on fait propre tout, mais on a toujours le doute que dans ce que nous savons, il puisse y avoir des erreurs, même au cœur de ce que nous savons. C'est-à-dire, la science a le courage de remettre en discussion même les aspects plus centrales, comme l'image du monde, le haut, le bas, etc. Et donc, repenser le monde à nouveau à chaque moment. Oui, moi, je suis scientifique, et pour moi, Anaximandre a été évidemment un grand amour, une passion, et a été un peu une façon de chercher de comprendre, étudier Anaximandre, de chercher de comprendre qu'est-ce que c'est que moi et mes collègues nous sommes en train de faire dans la science d'aujourd'hui, dans la science contemporaine.
Et c'est pas rien ce que vous et vos collègues vous êtes en train de faire, Carlo Rovelli. Vous êtes chercheur en physique théorique, co-inventeur de la théorie de la gravité quantique à boucle. On est vraiment dans la science pointue, les avancées les plus récentes en théorie physique. Et vous avez pris le temps de nous expliquer cette histoire d'Anaximandre de Milet, de nous expliquer en quoi vous considérez qu'il a permis la naissance de la pensée scientifique. Pourquoi ce détour par l'histoire, par un physicien de pointe?
Parce que je pense que la science, et en particulier la physique fondamentale, ne peuvent pas être faites seulement d'aspects techniques. Et l'exemple d'Anaximandre le montre. Les grands scientifiques, Einstein, Newton, Copernic, Heisenberg et tous les autres, ont tous été des gens qui ont été capables de réfléchir à fond, non pas seulement sur des problèmes techniques spécifiques, mais sur la pensée. Et ça, c'est nécessaire si on veut justement avoir le courage de repenser le monde à nouveau. Donc je pense que tout bon scientifique, s'il veut chercher de aider le développement de la science fondamentale, il ne doit pas se renfermer dans la spécificité de sa discipline, mais doit s'ouvrir la connaissance est une et la séparation entre les sciences dures et les sciences de l'homme, comme l'histoire et la philosophie, c'est une limite qui, à mon avis, empêche le développement d'un côté et de l'autre.
Et comme scientifique, vous devez avoir le culot de remettre en question les idées reçues dans lesquelles vous avez appris la science et avoir l'humilité de concevoir que ce que vous proposez, ce que vous proposerez, par exemple la gravité quantique à boucle, pourrait être mis au défi et se révéler faux.
Certainement, certainement, certainement. Je pense que c'est la magie de la science. C'est aussi sa limite qui est sa force. Dans la science, on ne vit pas dans des certitudes. Au contraire, on vit avec une manque complète, toujours de certitudes.
Est-ce que vous publiez, Carlo Rovelli, ce livre sur Anaximandre de Milet dans un contexte où certains problèmes ne sont pas réglés, certains tiraillements subsistent entre doutes et certitudes, entre science et religion, par exemple?
Oui, oui, et là, vous, j'en parle dans la dernière partie du livre. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à apprendre la science, le monde autour de moi avait, il me semble, plus de fascination, plus de respect pour la science. Ce qui s'est passé dans les dernières décennies, c'est une peur de la science qui monte, et surtout c'est un retour vers la primauté de la pensée religieuse, scientifique et même irrationnelle, dans plusieurs champs de la vie. On le voit partout, on le voit dans l'antidarwinisme aux États-Unis, on le voit dans l'importance de la religion énorme qui prend dans beaucoup de pays, donc le mien, l'Italie. Et le livre est aussi un peu une réaction contre ça, un peu une réaction contre cet antiscientifisme qui veut dire, bien sûr, on peut critiquer la science, on peut critiquer l'approche rationnelle au monde. L'approche rationnelle au monde, c'est lui-même basé sur la critique. On peut s'apercevoir des dommages qui a créé la science et qui a créé la pensée rationnelle. On peut faire tout ça. Mais aller dans la direction opposée, c'est, je pense, mettre en discussion ce que de mieux l'humanité a fait dans les derniers siècles et perdre notre instrument principal pour comprendre le monde et pour nous aider à vivre dans le futur.
Et pour mieux comprendre notre monde tel qu'il a été expliqué au fil des siècles, c'est une lecture fascinante que celle du livre Anaximandre de Milet ou La naissance de la pensée scientifique. C'est à vous qu'on le doit ce livre, Carlo Rovelli. Merci beaucoup de cet entretien.
Merci beaucoup à vous.
Je rappelle aux auditeurs que vous êtes chercheur en physique théorique, co-inventeur de la théorie de la gravité quantique à boucle, professeur à l'Université de la Méditerranée à Marseille et auteur donc de ce livre aux éditions Duno. Merci, au revoir.
Merci encore.
Et c'est la fin de cette édition des Années Lumière, une émission signée Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin, les journalistes Gaëlle Lucia Berdou, Sophie-André Blondin et Chantal Srivastava au site internet, Louis-André Bertrand, chroniqueur Hervé Fischer. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de la radio de Radio-Canada. Et pour les candidats à la Bourse Fernand Seguin, bonne semaine de travail. La date limite, ça s'en vient. Alors à la semaine prochaine pour tout le monde, pour une autre édition des Années Lumière. Au revoir.